Et c'est à présent le moment de la compagnie des auteurs, emmenée comme d'habitude par Anne-Vanessa Prévost, Corinne Amard, Didier Pinault et Gauthier Amiel. À la réalisation aujourd'hui, Anne-Laure Chanel avec Laurence Millet. Et à la technique, Patrick Muller, Tanguy Le Corneau, Alexandre James et Pascal Morel.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, une émission spéciale depuis la fête du livre de Bron. Je reçois pour une carte blanche l'écrivain Patrick Chamoiseau. Patrick Chamoiseau est l'auteur du célèbre roman Texaco, prix Goncourt 1992. Ce livre qu'il a fait connaître du grand public à l'âge de 39 ans, 6 ans après l'apparition de son roman Chronique des Sept Misères, qui marquait sa première incursion sur la scène littéraire. Originaire de Fort-de-France, il vit aujourd'hui encore à la Martinique, cette terre qui est au cœur de tout son travail littéraire et dont il ne finit pas, livre après livre, de raconter les mœurs, les injustices et le passé. Outre ses nombreux romans, nous lui devons des essais littéraires sur la créolité, des pièces de théâtre, mais aussi des poèmes et des scénarios de films. Son dernier livre a paru sous le titre « La matière de l'absence », cette absence qui est celle de sa mère, disparue en 1999, mais qui est aussi l'absence de certitude des hommes des Antilles quant à leurs origines. Nous lui avons demandé de choisir des textes qui ont marqué sa vie de lecteur et d'écrivain, et c'est ce choix qui va servir de base à notre conversation d'aujourd'hui. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Bonjour Patrick Chamoiseau.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous consacrer une heure de votre temps ici à la fête du livre de Bron. Je sais que vous êtes extrêmement sollicité. Mais ce qu'on va vous demander ici, c'est un exercice un peu particulier puisqu'il va s'agir de parler de vous, mais d'en parler à travers d'autres écrivains. Et je voudrais tout de suite en convoquer un d'écrivain, c'est un grand, et il a parlé de vous, c'est Milan Kundera. Milan Kundera qui a fait remarquer dans son essai Une rencontre que vous étiez beaucoup plus proche de Rabelais que de Kafka. Vous avez lu cette remarque et ce texte de lui ?
Oui, je connais bien Milan, qui regarde ce que je fais avec une certaine bienveillance. Non, il a raison. Hein, la problématique pour un écrivain comme moi, qui naît dans un pays colonisé par la France, lorsque je nais en 1953, la Martinique est une colonie française, elle deviendra département en 1946. Donc je nais au moment de la décolonisation, et au moment où les peuples revendiquent un petit peu leur liberté face à la domination coloniale occidentale, sachant que la colonisation récapitule et concentre tout ce qu'on peut imaginer comme attaque contre le genre humain, et c'est vraiment quelque chose d'assez épouvantable. Et parmi les problématiques de la colonisation, tous les écrivains qui sont nés dans des pays colonisés ont connu cette souffrance de devoir écrire, en tout cas cette problématique de devoir écrire entre une langue dominée et une langue dominante. Alors, la langue dominante, c'est la langue du colon. Pour moi, c'était la langue française. Et la langue dominée, c'était pas comme dans les autres colonies, une langue atavique, c'est-à-dire qui était là avant l'arrivée des colons. La langue dominée, c'est la langue créole. Mais c'est une langue qui est née dans la colonisation, qui est née dans les plantations esclavagistes.
Oui, mais Rabelais, c'est pas une langue dominée, Rabelais.
Justement, j'arrive. La langue apparaît donc dans la plantation, et pour des raisons historiques, et notamment les raisons de domination coloniale, la langue française, c'est vraiment le soleil. Et la langue créole, c'est la lune, quoi. C'est le truc obscur. Et la difficulté, c'était de voir, mais où se trouve l'authenticité de l'écrivain? Est-ce que c'est la langue créole dominée, populaire, que ma mère parlait, etc.? Ou est-ce que c'est la langue française dominante? Et là, c'est un déchirement que tous les écrivains ont connu, enfin l'écrivain en pays colonisé. Et à partir de là, la problématique, c'était de construire son langage à partir de toutes les langues qui nous sont données. Ça, c'est Glissant qui nous libère en nous disant il n'y a pas à choisir. Au contraire, il faut prendre cette complexité nouvelle.
Et on parlera de lui, justement,
voilà.
Dans cette
émission. Voilà. Alors, la difficulté, c'est que ce n'est pas facile de bâtir un langage quand on est en face d'une langue dominée. Et une langue dominante, c'est un soleil qui vous impose non seulement son énergie, mais aussi sa structuration identitaire, mais aussi un certain nombre de valeurs qui sont véhiculées par la langue avec la domination. Et écrire dans la langue dominée, c'est entrer dans un processus de défense et illustration de la langue. Quand on fait défense et illustration, on ne fait pas de la littérature. Et quand on est soumis au soleil d'une langue dominante, on ne fait pas non plus de la littérature, puisque c'est la littérature, c'est la fête de la langue, c'est l'explosion de la langue. À partir de là, il fallait se construire un langage, donc il fallait trouver une liberté langagière. Et j'ai eu la chance très rapidement de lire Rabelais.
Très rapidement, c'est-à-dire vers quel âge à peu près?
Moi, je sais que, je raconte ça souvent, ma mère avait une boîte de pommes de terre dans la penderie. Et dans la boîte de pommes de terre, une espèce de boîte en carton, en bois très fin avec des attaches en métallique, elle entassait tous les livres que mes frères et sœurs avaient obtenus des prix. On donnait des prix d'excellence aux enfants et comme ils travaillaient assez bien, il y avait plein de livres. Et c'était des livres reliés avec des illustrations de Gustave Doré, etc., etc. Et bien sûr, il y avait un livre de Rabelais. Je ne sais plus lequel, mais les livres étaient illustrés. Et c'est comme ça que je rentre en contact avec la plupart des livres qui vont être déterminants. Donc, je rencontre Rabelais très rapidement et ça me sauve d'une certaine manière parce que il y a une telle liberté langagière. À l'époque de Rabelais, les académies ne sont pas encore bien formatées. Rabelais, il puise dans toutes les ressources du langage, dans tous les parlers qui sont autour de lui. Il a une inventivité, une liberté. Il est vraiment presque à l'aube de la création littéraire. Et cette liberté-là me sera très précieuse. Après, je vais l'approfondir et la continuer par des auteurs que je vais lire, parce que je vais rapidement devenir un auteur universel. Je vais lire Simonet, les policiers, qui ont aussi une langue argotique, San Antonio, ce sont des libertés langagières absolument étonnantes.
Et mais rappelez, vous avez compris tout de suite, c'est quand même très difficile quand on a 13, même 14 ans.
C'est difficile parce qu'il y a le vieux français, donc on faisait une sorte d'aller-retour entre les formalisation en langage compréhensible et puis les formulations du vieux français. Mais ce qui était intéressant, c'est que le créole a fonctionné comme un conservatoire de vieux mots français. Donc il y a beaucoup de mots de Rabelais qui sont dans la langue créole. Ce qui fait que j'étais en langage familier, en terre familière. Mais cette liberté langagière, cette capacité à ne pas se donner de limites dans la langue, c'est quelque chose qui, dans l'univers colonial, est absolument précieux.
Et c'est peut-être un hommage que vous faites à Rabelais dans votre premier roman, quand vous écrivez, c'est les premiers mots, messieurs et dames de la compagnie, un petit peu comme Rabelais commence son Gargantua en disant buveur très illustre et vous, Vérolet très précieux. Vous y avez pensé ou pas du tout?
Ah, bien sûr, ça c'est un truc absolument célèbre qu'on a, qui est d'autant plus intéressant qu'on a, et ça va être une autre problématique d'écrivain dans ces pays particuliers, c'est que avec la langue créole qui devait rentrer dans mon écriture, il y avait toute l'oralité, parce que c'est une langue orale. Et les vieux conteurs créoles, ceux qui vont parler dans les plantations esclavagistes et qui vont parler en créole, en mélangeant le créole et le français, vont eux aussi créer un langage et ils ont cette formulation d'adresse au public. Donc je retrouvais dans Rabelais à la fois la liberté langagière, mais aussi des modalités narratives qui appartenaient aux conteurs créoles.
Voilà, donc Rabelais est créole en fait.
Ah bien sûr, il est créole, c'est-à-dire qu'il est
invente aussi sa langue.
Il est dans une diversité assumée. Et là, le langage devient un appel à tout le langage possible, à toutes les langues possibles. Ce que les écrivains vont perdre très rapidement.
Alors, on va entrer dans le vif de votre sélection. Donc, nous vous avons demandé à la compagnie des auteurs de choisir un texte qui vous a marqué durant votre jeunesse. Et vous avez choisi, donc, non pas Rabelais, mais vous avez choisi Germinal de Zola. Je vous propose d'en entendre la première page. Elle est lue par Guillaume Gallienne.
Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer glacée d'avoir balayé des lieux de marais et de terre nue. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel. Le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. L'homme était parti de Marchienne vers 2 heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte. L'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Brusquement, à un coude du chemin, un spectacle l'arrêta. C'était une masse lourde. Un tas écrasé de constructions d'où se dressait la silhouette d'une cheminée d'usine. De rares lueurs sortaient des fenêtres encrassées. 5 ou 6 lanternes tristes étaient pendues dehors à des charpentes dont les bois noircis alignaient vaguement des profils de tréteaux gigantesques. Alors l'homme reconnut une fosse. Il fut pris de honte. À quoi bon ? Il n'y aurait pas de travail. Mais il se risqua à gravir le terri sur lequel brûlaient 3 feux de houille dans des corbeilles de fonte. « Bonjour, » dit-il en s'approchant. « Bonjour, » dit un vieux charretier. « Je me nomme Étienne Lantier, je suis machineur. Il n'y a pas de travail ici ? C'est une fosse, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, c'est le Voreux. » Cette fosse, tassée au fond d'un creux, avec ses constructions trapues de briques, dressant sa cheminée comme une corne menaçante, lui semblait avoir un air mauvais de bête goulue, accroupie là pour manger le monde.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture et nous sommes avec Patrick Chamoiseau pour une carte blanche. Vous voyez le public devant vous qui écoutez, tout comme vous d'ailleurs, de manière très attentive.
Ouais, c'est cool.
Cet extrait de Germinal de Zola. Qu'est-ce qui fonctionne si bien? Qu'est-ce qui vous plaît tant? Bon, c'est une lecture d'enfance pour vous, mais peut-être l'avez-vous relu ensuite?
Oui, Germinal fait partie des livres que je lis très très rapidement. Je sais pas à quelle période j'ai commencé à lire, mais
c'était dans la boîte aussi.
C'était dans la boîte. Avant, il y avait Alice au pays des merveilles,
ah, et
puis après, il y a eu Germinal. Germinal, c'était d'abord le désenchantement, c'est-à-dire là on entre dans la misère humaine, l'exploitation capitaliste, l'usine, le capitalisme de production, quoi, le vieux truc industriel, et puis tout le broyage humain qui va se faire dans les mines, et puis bien sûr la grève, bon. Et ça c'est exceptionnel parce que je découvre quelque chose qui va être absolument déterminant. Je découvre ce que Zola amène, indépendamment de son travail très précis. Zola, il se documentait beaucoup, il pensait qu'on pouvait transmettre le réel, donc il avait toute une documentation, machin, il est très dans les descriptions. Mais il y a une telle puissance talentueuse que ce qui fait le travail de Zola, c'est que l'humain et la matière humaine, la misère humaine, la résistance humaine, la beauté humaine, et tout ça va se faire à travers de petites gens, des ouvriers, toute misère, petite vie, des choses qui sont extraordinaires parce que ça me rappelle ma situation, c'est-à-dire que quand je lis ce que vivait la famille Maheu, c'est vraiment ce que vivait ma maman, mon inode dans une petite pièce.
Et pourtant, ça n'est pas du tout au même endroit.
C'est pas le même truc.
Vous n'habitez pas du tout dans le nord de la France.
C'est là que puis Zola est puissant, tout en étant très naturaliste et lié à une réalité qu'on aurait pu penser complètement différente. Il avait une captation tellement précise et tellement sensible de ce qui fait l'humain qu'il reproduisait exactement ce que je perçois de ma situation. Et c'était important parce que, du coup, dans tout ce que je vais écrire par la suite, ça sera toujours à partir des petites gens, les jobbeurs des marchés, les compteurs, le petit peuple de Fort-de-France. On va même me le reprocher en disant que je n'étais pas très noble dans mes approches. C'est vraiment une approche très, très populaire qui va être mise en œuvre et d'autant plus intéressante que elle donnait la parole à ceux qui n'avaient pas de parole, qui n'avaient pas de socle, qui n'avaient pas de statut et qui n'apparaissaient pas dessous le discours colonial.
Donc l'identification...
Salvateur de ce point de vue-là.
L'identification, elle fonctionne même si le décor n'a rien à voir avec votre décor quotidien.
Oui, parce que c'est une idée de ce qui fait l'unité du genre humain. Il y a deux manières d'atteindre à l'unité du genre humain. Soit on se construit quelque chose qui a été dévastateur et aliénant et dominateur, qui est cette idée de l'universel. Très souvent, ce qu'on nous a présenté comme étant universel, c'était les valeurs occidentales, quand on était occidental, et donc on était universel. Et je connais beaucoup de poètes antillais, martiniquais ou de romanciers martiniquais qui, voulant être universel, faisaient disparaître tout ce qu'il y avait de local. Je me souviens même que lorsque j'avais écrit Sodibo Magnifique, j'avais eu l'audace de mettre la recette une recette de cuisine antillaise, le touffé de requin, c'est une sorte de couve-bouillon de requin. Et le type me disait, un philosophe, hein, très très intelligent, puissant, me dit, mais c'est folklorique et c'est exotique et c'est lamentable, c'est pas universel que de mettre une recette de cuisine. Mais pourquoi j'avais cette liberté? C'est simplement parce que j'avais compris que ce qui touche les gens, c'est pas véritablement, je dirais, le détail de la circonstance, ni même le détail du contexte. Ce qui touche, c'est la vibration humaine. Et Zola, malgré son souci de précision, de transmission du réel, il arrivait à mettre comme ça dans ses évocations quelque chose qui est véritablement la situation humaine.
Et alors précisément, ce naturalisme de Zola qui vous a quand même marqué visiblement, vous n'êtes pas naturaliste, je ne crois pas, mais comment avez-vous pu l'apprécier et comment a-t-il pu à un moment donné être une source d'interrogation pour vous? Je pense qu'au début, quand vous avez commencé à écrire, peut-être étiez-vous davantage naturaliste, c'est peut-être la tendance qu'on a quand on commence à écrire avant de réfléchir sur son propre travail. Alors Zola était peut-être plus présent à ce moment-là et ensuite ça a peut-être changé.
Mais c'est vrai que Zola ne m'a pas influencé dans ma manière d'écrire. Je ne le mettrai pas parmi mes fondations en ce qui concerne la construction de mon langage. Je le mets dans mes fondations en ce qui concerne ma perception du monde et ma perception des choses. Mais en matière d'écriture, ce qui va me sauver très rapidement, bon, bien sûr, c'est la liberté langagière de Rabelais, mais aussi, je dirais, la poésie. Hein. L'approche poétique n'a rien à voir, même s'il y a de la poésie chez Zola. Mais l'approche poétique est vraiment un affranchissement extraordinaire de tout ce qui est, je dirais, la butée du sens et la butée de la description. Et bien sûr, Zola y échappe. Hein. On peut pas réduire Zola à sa capacité à transmettre la réalité des mines de charbon dans le Nord. Bon, ça, il a une grande force là-dessus, mais sa puissance est ailleurs. Sa puissance est justement parce qu'il a une telle sensibilité de créateur qu'il arrive à nous transmettre l'essentiel et à faire en sorte que ce qui est une réalité du Nord de la France dans un moment précis se transforme en un gigantesque témoignage de la beauté humaine face à l'oppression.
Mais Zola, c'est quand même un écrivain de la métropole et finalement vous allez au fur et à mesure de votre maturation découvrir un autre écrivain qui va avoir une place encore bien plus importante pour vous et c'est évidemment Édouard Glissant. Rappelons qu'il est l'auteur de Malemort, du traité du tout monde, de Poétique de la relation dont le premier volume s'intitule Soleil de la conscience. Vous l'avez cité et ça revient souvent d'ailleurs dans les interviews que vous donnez, comme étant l'écrivain majeur.
Ah oui, parce que là, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, ce que je vais dire, c'est que moi, on avait affaire à la France coloniale, colonialiste, dominatrice, avec tout ce que ça suppose, comme violence arbitraire, exploitation, déni de l'autre, etc. Mais la France coloniale, par son école coloniale, nous amenait aussi la littérature. Et Zola, c'est pas un colonialiste. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a plusieurs Frances. Nous, on a rencontré la France des marchands et des capitalistes. Et là-dessous, avec les bibliothèques, on a rencontré la France, je dirais, éternelle, même si c'est une connerie de dire ça. Mais il y avait une autre France qui a été présente et qui a nourri. Heureusement, donc Zola n'est pas un colonialiste. Il n'aurait pas pu l'être. Donc, il y a cette fréquentation d'un humanisme qui va être précieux par la suite. Et avec Glissant, va apparaître quelque chose qui est déterminant, c'est d'abord la première idée, c'est la construction du langage. Quand je vais lire Malemort d'Édouard Glissant, j'avais lu tous ses livres avant, bon, ça m'intéressait, mais quand je vais lire Malemort, là, j'aurai un choc. Parce que, avec Malemort, on va sortir de ce que nous avaient imposé les colonialistes. Les colonialistes nous avaient imposé des absolus. Un colonialiste qui débarque dans un pays, il voit des gens qui ont une autre culture, un autre langage, un autre dieu, etc. C'est des barbares. Et les barbares, il faut les civiliser, il faut les christianiser, il faut les rendre transparents. Donc, on fait ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec les immigrés, on va les intégrer à sa culture. Intégrer, c'est désintégrer. On ne bouge pas, on a un paradigme qui est soi, et puis on intègre les autres. Donc on les désintègre et puis on les conforme à une espèce d'unicité dont on serait la référence. Et c'était ça, le discours colonialiste. Et dans le discours colonialiste, il y a l'absolu linguistique. On entend encore beaucoup d'écrivains dire « la langue, c'est moi, ma colonne vertébrale, c'est ma mère, si je suis pas dans cette langue-là », alors que quand on regarde la réalité relationnelle du monde, on s'aperçoit que les écrivains se déplacent dans les langues, on peut changer de langue, et ce n'est pas en changeant de langue qu'on change, on existe toujours. L'identité n'est pas liée à une langue. L'identité, c'est un phénomène évolutif, c'est un flux constant, et ce sont des adaptations où on change sans pour se dénaturer. Et ce qui fait le principe de l'identité, c'est véritablement l'aptitude à changer et à s'enrichir de toute la diversité du monde. Ce qui fait que les colonialistes nous transmettent en absolu, on s'installe dans la langue à la manière de Balzac. Balzac, lui, il pense qu'avec la langue française, il peut tout dire de la réalité du réel et du monde. Il n'a pas de problème. Mais quand Joyce va se confronter vraiment au chaos du monde qui devient de plus en plus présent, Joyce dira « je suis allé au bout de l'anglais » et puis il va faire comme Rabelais faisait bien longtemps, il va essayer de rameuter, etc. Et ce qui est important dans Le Malemort de Glissant, c'est la première fois où je voyais quelqu'un qui réussissait une alchimie entre la langue créole et la langue française.
Alors on va l'écouter justement, Édouard Glissant, parler de ce livre Malemort.
Je crois que la littérature moderne a largement montré que la technique du récit linéaire, si on ne doit pas la mettre à l'écart, parce qu'elle est importante, n'est plus la seule valable. Et deuxièmement, je réponds aussi que ce n'est pas par un choix technique que j'adopte cette manière un peu interrompue et saccadée de présenter une histoire, c'est parce que c'est comme cela que ça se présente dans la conscience et surtout, beaucoup plus important, dans l'inconscient de la collectivité antillaise. Malemort, c'est un peu une tentative d'explorer les turbulences de l'inconscient antillais, c'est-à-dire qu'à travers une série de personnages populaires, et à travers les avatars qu'ils vivent, j'essaie de rendre visible ce qui se passe en nous du point de vue d'un certain nombre de manques dont nous souffrons et que nous éprouvons. Par exemple, au début du livre, il y a une course, il y a un cochon, et ces personnages qui sont couchés sous les arbres racontent à un enfant qui ne peut rien comprendre, il y a le côté dérisoire de la chose, les petits travaux, les jobs auxquels ils sont obligés de se livrer pour gagner un peu de sous. Eh bien, c'est une chose très évidente dans un pays où il y a 40% de chômeurs. La course au travail devient non plus seulement une recherche de métier, mais devient un lancinement dans l'inconscient. Et ça produit des déséquilibres, il n'y a pas d'autre mot.
Des déséquilibres psychiques.
Psychiques, oui, oui. Dont on ne peut pas rendre compte de manière linéaire, claire et évidente. Il faut casser la masse du récit, il faut l'interrompre par des espèces de parenthèses qui ne sont pas des parenthèses poétiques. L'antillais a des problèmes avec les langues qu'il utilise. Ouais. Et l'antillais a pris l'habitude de parler autour des mots, de ne pas dire la chose directement.
Malemort, Patrick Chamoiseau, c'est donc le livre que vous avez cité quand on vous a demandé de nous trouver un texte déclencheur de votre volonté de devenir écrivain. Parce que c'est vrai que c'est presque un cours d'écriture qu'on vient d'entendre là en archive d'Édouard Glissant. Alors racontez-nous, vous lisez ce livre et vous vous dites « Ah bah oui, en fait c'est ça, je vais devenir écrivain ».
Oui, parce que j'ai écrit avant, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire des poèmes, des romans. Mais j'écrivais, à l'époque, j'étais très influencé par Césaire. Et c'est vrai que dans la langue française, Césaire déployait une liberté créatrice, hein, qui était assez puissante. Il disait qu'il allait ramener les tambours, les tam-tams d'Afrique dans la langue française. Donc il y a une rythmique, il y a un rapport à la langue très, très, très libre et très novateur. Mais pas plus novateur que ce qu'aurait pu faire Mallarmé, d'une certaine manière. Alors que Glissant...
Ou Céline,
à la limite, hein, et même encore moins innovateur que ce qu'a fait Rabelais. Donc il y avait, mais il y avait quand même une très très grande liberté par rapport à l'espèce de soumission qu'avaient tous les écrivains à l'époque face à la langue. Il fallait rentrer dans la langue comme on entre dans une cathédrale et pas toucher aux meubles, pas toucher et puis essayer de se faufiler et disparaître dans l'univers de la langue. Alors que Césaire, il entrait dans la cathédrale et puis il jouait du tam-tam dans la cathédrale, mais il était dans la cathédrale. Alors que Glisson, il va traverser la cathédrale et dans la cathédrale, il va ramener tout l'univers de la langue créole, en imaginaire, en lexique. Il va véritablement mettre des onomatopées, mettre du rythme, mettre des déconstructions, mettre de l'obscurité, mettre des choses qui sont absolument étonnantes et qui vont me libérer. Parce que moi, ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'était un usage très conventionnel, très classique de
vous
la langue.
Vous étiez dans la cathédrale, vous aussi.
J'étais
vous
dans la cathédrale. J'essayais de me débattre, mais bon, j'étais resté dans la cathédrale, alors que là, il va faire exploser tous les vitraux de la cathédrale et les grands vents vont commencer à souffler. Et là, ça me libère. Et ça me libère tellement que j'écris un roman qui s'appelle Chronique des sept misères, que je vais lui demander de traduire. Alors, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous montre simplement que, quelle que soit la langue que l'on utilise, on n'est plus dans l'absolu linguistique. On a une langue de naissance qui peut être le français ou qui peut être l'anglais, mais la problématique de l'écrivain contemporain, c'est de construire son langage dans la langue ou dans toutes les langues qui lui sont données. Et ce qui nous est donné dans le monde contemporain, qui est un monde de relations, ce sont toutes les langues du monde. Alors l'idée n'est pas de les connaître toutes ou de les écrire toutes, mais lorsqu'on écrit, de convoquer d'une certaine manière leur sensibilité, leur présence, leur rythme, leur évocation, leur curiosité, enfin, imaginer cette présence des langues. Et Glisson disait, j'écris en présence de toutes les langues du monde, donc le langage qu'il nous faut construire, ce n'est pas un langage qui célèbre la langue dans laquelle on se trouve comme le ferait un style ou comme le ferait une obéissance à la grammaire, c'est véritablement la construction d'une manière de raconter qui déjà récupère tout ce que la langue ne peut pas dire, tout ce que la langue ne dit pas, ses obscurités, ses ombres, ses silences, ses rites, et qui aussi va au-delà de la langue en disant il y a d'autres langues, il n'y a pas d'absolu linguistique, toutes les langues sont belles, toutes les langues sont magnifiques, et quand on écrit, il faut que chaque mot désire toutes les langues du monde et toutes les possibilités d'autres mots. Et ça c'est libérateur et à mon avis, c'est l'esthétique contemporaine en matière d'écriture.
Alors Glisson, dans cette archive, dit que s'il adopte un style saccadé, c'est parce que c'est comme ça que les faits se présentent dans l'inconscient de la communauté antillaise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que c'est saccadé dans l'inconscient de la communauté antillaise?
Ah, bien sûr, parce que lorsque le conteur va prendre la parole dans les habitations esclavagistes, il faut considérer l'habitation esclavagiste comme un recommencement du monde. Et les gens qui sont dans l'habitation ont perdu les absolus. Les anciens Africains, ceux qui ont été capturés et qui ont été réduits en esclavage, vont composer leurs paroles, non pas à partir de langues bien établies, de dieux, de rituels, de religions, mais à partir de traces, c'est-à-dire des choses très labiles, très incertaines, qu'il leur faut combiner, etc. Donc, c'est vraiment une situation où on mobilise tout le possible, la totalité de ce qui est possible. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'espace de l'imaginaire de ces esclaves? On a le temps colonial, dominateur, on a le temps brisé qui est perdu, on a cette catastrophe qu'a représenté le gouffre du bateau négrier, on a le temps amérindien qui, lui, a été génocidé, mais qui subsiste de manière incroyable, et puis on a des différentes temporalités qui sont amenées par les immigrations. Ce qui fait que, lorsqu'on regarde le monde, lorsqu'un créole martiniquais ou caribéen ou américain regarde le monde, il va pas voir un récit national, il n'y a pas de récit national dans les Antilles, il y a tous les récits, il y a les récits amérindiens, les récits africains, les récits colonialistes, les récits des différents migrants. Donc on s'aperçoit qu'on est dans un espace-temps complètement diffracté. Glisson disait toujours, la Méditerranée concentre. Là, c'est toutes les religions monothéistes qui sont nées autour de la Méditerranée, alors que la Caraïbe diffracte. Et quand on va dans la Caraïbe, qu'est-ce qu'on a dans la Caraïbe? On a le jazz, on a le reggae, on a la biguine. C'est quoi le jazz? C'est la diversité agissante. Ce sont des individuations individuelles qui vont dans l'improvisation, c'est-à-dire leur génie personnel, et qui, dans l'improvisation, pas par un diktat communautaire. Dans un orchestre de jazz, il n'y a pas de partition comme dans un orchestre philharmonique. Et chacun improvise sa plénitude et ça donne des manifestations du génie humain qui sont absolument étonnantes.
Et Glissant disait que dans les Antilles, on pouvait être catholique et appeler le médecin quand on avait un problème, mais qu'on pouvait aussi, pourquoi pas, appeler le sorcier.
Ah, bien sûr, oui.
Et tout ça, en fait, ne pose pas de difficultés. Les choses, simplement, se mélangent de manière totalement naturelle.
Oui, parce qu'on n'a pas un absolu d'imaginaire. On a, dans une communauté archaïque traditionnelle, on a une genèse, une explication, une création du monde, un mythe fondateur, et puis l'histoire, le grand récit national de la communauté qui crée des absolus, ma langue, ma peau, mon territoire, mon ceci, mon cela. Alors que dans les Caraïbes, il n'y a pas de genèse, voyons, il faut toutes les genèses. Genèse amérindienne, genèse africaine, oui. Genèse colonialiste, etc. Il y a plein de mythes fondateurs, trop de mythes fondateurs, il n'y a pas de mythes fondateurs. Donc du coup, on se retrouve face à la diversité.
Et vous, et on du fait coup, avec. Votre question, c'est comment est-ce qu'on en fait une langue spécifique, comment est-ce qu'on écrit un roman ou un récit qui arrive à refléter
ça par le langage. Et c'est là que l'important, c'est le langage. Et c'est pourquoi des auteurs comme Joyce, comme Faulkner, comme Rabelais, ce sont des auteurs qui sont importants parce qu'ils témoignent de langage. Quand, à mon avis, aujourd'hui, il y a deux sortes d'écrivains déterminants. Il y a des écrivains qui arrivent à la vision de la diversité du monde par la puissance de la narration. Et on a ces écrivains qui arrivent à une puissance de la vision du monde par la force du langage. Moi, je suis plutôt dans... C'est le langage qui raconte chez moi.
Et on peut pas avoir les deux en même temps.
On peut avoir les deux, parce que quand on regarde bien, vous avez raison, quand on regarde bien, García Márquez, c'est la puissance de la narration. C'est un maître du... Et en même temps, il y a la phrase de García Márquez, on la reconnaît entre mille, il y a un langage. Il y a un espace-temps diffracté, compacté, il y a un temps qui est mis en spirale. Il y a des réalités qui sont très, très conformes à la réalité du monde.
On va parler de García Márquez, mais avant cela, et pour terminer sur Glissant, je vous propose d'écouter un extrait d'un autre de ces textes que vous nous avez cité, c'est Soleil de la conscience.
On voit bien que la poésie n'est pas en balance ici, et qu'ensemble, je tends à l'y engager, ne pouvant autrement. Ce que je voudrais établir d'abord, c'est la nécessité d'un chaos d'écriture dans le temps où l'être est tout chaos. C'est-à-dire, comment l'expression suit la même épure que l'individu. Mais pourquoi et quand l'être serait-il tout chaos? C'est quand, par exemple, s'éprouvant comme lancé dans une aventure très collective, dans le commencement de quelque périple nouveau, ébloui il s'ébat, tenté par mille directions successivement, avant de trouver son ordre. Or, aux Antilles, d'où je viens, on peut dire qu'un peuple positivement se construit. Né d'un bouillon de culture, dans ce laboratoire dont chaque table est une île, voici une synthèse de races, de mœurs, de savoirs, mais qui tend vers son unité propre. Cette synthèse, telle est en effet la question, peut-elle réussir une unité ?
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous sommes avec Patrick Chamoiseau pour une carte blanche. Alors, à notre petit questionnaire qu'on vous a envoyé il y a quelques jours, vous avez répondu deux fois Édouard Glissant. La première, on l'a vu, c'était quand avez-vous eu le sentiment que vous alliez écrire, devenir écrivain. Et l'autre question, c'était quel texte vous a fait mieux comprendre qui vous étiez. Alors, allongez-vous, Patrick Chamoiseau. Et pourquoi avoir à cette question répondu le Soleil de la conscience dont on vient d'entendre un extrait?
Oui, il y a deux choses.
À cause du mot conscience, peut-être.
D'après mes souvenirs, Soleil de la conscience paraît dans les années 50, hein, au moment où je nais, pratiquement. Bon. Et dans la conscience, le Soleil et la conscience, il dit deux choses. On est en pleine décolonisation. Donc le monde est à peu près manichéen. Il y a les occidentaux et les non-occidentaux. Les colonialistes et les colonisés qui ont commencé leur lutte de décolonisation. Il y a les blancs, les noirs. Je me souviens des anthologies de littérature négo-africaine. On mettait dans le même panier tout ce qui était noir dans le monde, qui n'était pas blanc. Et puis voilà, on avait une sorte d'unité apparente basée sur le fait qu'on était tous ces colonialistes et qu'on n'était pas blanc.
Donc vous, à ce moment-là, vous savez pas où vous situez,
voilà,
c'est ça.
Voilà, c'était le monde était un peu simple. Et lui, dans Causer la conscience, il va dire, mais attention, Le plus important de ce qui s'est produit, c'est qu'avec la colonisation, le monde a commencé une globalisation incroyable, et ce qui va être déterminant, ça va être le processus relationnel. C'est pas les conflits nationaux, mon drapeau contre ton drapeau, ma frontière contre ta frontière, mon indépendance, etc., comme ça va se passer, malheureusement. La plupart des indépendances africaines, notamment, vont reproduire le modèle occidental, et la domination coloniale va changer de forme. On va mettre à la place des colonialistes, on va mettre des espèces de potentats, des dictateurs, des êtres fantoches et une élite qui va participer de la continuation de l'exploitation. Donc, on voit bien qu'il avait raison et que ce qui va rester de la colonisation, c'est que désormais, les flux relationnels seront enclenchés. Non seulement, et un autre élément important, c'est que la colonisation va détruire les principes communautaires. La plupart des communautés qui ont été frappées par le colonialisme seront déstructurées. Et là, on a l'émergence de l'individu, du processus d'individu. Donc ce sont désormais des individus qui vont se retrouver éjectés d'une certaine manière, non pas dans les assises de mon clocher, de ma langue, de mon pays, de mon ceci, mais pratiquement sous la scène relationnelle du monde. Donc il met en scène la relation. La deuxième chose qu'il va dire, et qui est importante, quand il raconte son arrivée à Paris, parce que c'est un peu la fascination pour les Antillais.
Et la fois où il découvre la neige.
Il se croit français, parce que moi j'ai appris nos ancêtres les Gaulois à l'école, donc on n'a pas de problème, on est français et bon. Et ils arrivent à Paris, et puis c'est là qu'ils s'aperçoivent qu'on les regarde comme des immigrés, comme des non-français, et il y a un choc qui va se produire. Et généralement, et là, ce choc était traumatique pour la plupart des écrivains qui étaient aliénés, qui étaient persuadés qu'ils étaient totalement, clairement, franchement français, et qu'on pouvait les intégrer à la culture française. Bon, ils déchantent, et ils tombent de haut. Alors que Glissant, il va dire, quand j'arrive à Paris, il y a deux choses qui se déclenchent en moi. La vision du fils et le regard de l'étranger. Et il comprend cette nouvelle complexité du monde où on est à la fois fils et étranger. On est dedans et on est dehors. Et ça ressemble bien à la situation de tous ces enfants aujourd'hui. Le père est japonais, la mère est française, il naît en Irlande. Il est entre plusieurs histoires, entre plusieurs cultures, entre plusieurs langues. Regardez, la plupart des enfants, ils sont référencés d'une certaine manière, de manière un peu complexe, avec des langues différentes, avec des territoires, avec des histoires, avec des trajectoires. Ce n'est plus aussi simple. La complexité nous a rejoint, et lorsqu'il a indiqué cette complexité-là, d'une certaine manière, ça m'a libéré, parce que nous, aux Antilles, on se disait, on n'est rien, on est des bâtards, on n'a pas de langue ancestrale, on n'a pas d'atavisme millénaire, nos religions, c'est un mélange composite de toute espèce de présence, et là, ce dedans-dehors qui va composer un peu pratiquement tous les êtres contemporains, ça a été précieux pour moi et ça a été fondateur.
Donc vous pouvez maintenant répondre à la question, qui êtes-vous, Patrick Chamoiseau ? Grâce à lui, entre autres, mais en partie grâce à lui.
Oui, c'est-à-dire que on a eu, là encore, c'est très souvent les colonialistes qui ont imposé l'identité fixe. C'est-à-dire, ils nous imposaient une identité d'emprunt, ma langue, ma peau, mon histoire, et puis ils nous enseignaient nos ancêtres, les Gaulois.
Donc ils nous Alors que vous êtes tout à la fois, c'est ça, d'une certaine façon.
Nous sommes tout à la fois, mais ils nous imposent le principe d'une identité fixe. On l'entend encore dans les trucs de Fillon, etc. C'est des idioties, le grand récit national, etc. Donc c'était ça, l'identité pour eux, c'est, voilà, il y a une naissance française qui doit pas bouger, qui est là, millénaire, etc. Donc le colonialisme a organisé le monde sur la base des identités fixes. Mais la relation est active, et quand on arrive à un certain niveau de confiance, on s'aperçoit que l'identité, c'est un flux relationnel, et que ce qui fait ma permanence, c'est justement ma capacité à m'enrichir de la diversité du monde, et à me construire non pas un arbre généalogique absolu, mais un arbre relationnel où la totalité du monde, mes influences, la musique que j'aime, les femmes que j'ai aimées, les gens que j'ai rencontrés, les saveurs, les cuisines, tout ça se rejoint et fait une présence au monde qui est absolument importante. Donc l'identité est purement relationnelle, donc c'est un mouvement permanent et un changement permanent.
Et puis il faut dire que vous avez non seulement admiré Édouard Glissant, mais vous l'avez surtout beaucoup connu, et puis vous avez même travailler ensemble, vous avez écrit des essais, Quand les murs tombent, l'identité nationale hors la loi, c'était en 2007 aux éditions Galade, vous avez écrit un livre pour répondre à la création du ministère de l'identité nationale par Nicolas Sarkozy, vous avez écrit aussi, toujours ensemble, l'intraitable beauté du monde adresse à Obama, donc vous avez admiré un homme, un écrivain, et vous avez fini par travailler avec lui, par écrire avec lui. C'est quand même une expérience extraordinaire, non?
Ah oui, c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer ce que j'appelle une sorte d'aristocrate de la littérature. Lui, il ne jouait pas avec la littérature. Moi, je suis beaucoup plus libre hein, par rapport à l'écriture littéraire, mais lui, c'était vraiment quelqu'un de très exigeant. Et il avait cette faculté qu'il m'a transmise d'une certaine manière, c'est de ne pas laisser l'explication du monde, des choses, des événements aux seuls experts. Vous savez, les experts qui dominent aujourd'hui l'explication des choses et du monde, ce sont les économistes. Il n'y a pas pire qu'un économiste contemporain. C'est vraiment une sorte...
Ne dites pas ça, on a beaucoup d'auditeurs qui sont aussi des économistes.
Oui, il y a quelques êtres humains parmi les économistes, mais ils sont rares.
Il y a les... Dans le public, il y a des économistes, levez-vous.
Il y a l'intégrisme. À côté de l'intégrisme religieux, aujourd'hui, on a l'intégrisme économique qui fait autant de ravages et qui soumet toutes les valeurs, enfin, j'aime pas le terme de valeur, mais qui, toute l'éthique est soumise au principe économique. Et l'affaissement moral auquel on assiste aujourd'hui dans l'élection présidentielle française vient d'un extrême du capitalisme. Le capitalisme ne fait pas que développer les précarités, transformer les pauvretés en misère, mais il induit un affaissement spirituel, un affaissement éthique et un affaissement moral. Et on le voit bien, donc c'est véritablement quelque chose de terrible. Mais ça, c'est dominé par le discours économique. Et Glissant disait, on ne laisse pas la parole aux seuls économistes, aux experts, aux machins. Les poètes peuvent parler et les poètes peuvent aussi interpréter. Donc les poétiques sont des moyens de connaissance du monde actuel.
Alors, Patrick Chamoiseau, on peut dire que tous vos livres, et vous le prouvez encore, sont pétris de politique, sont aussi pétris d'histoire,
hein,
au sens noble, bien entendu. Dans L'esclave, vieil homme et le molosse, roman sur les premiers temps de l'esclavage et du marronnage, vous remontiez même jusqu'au peuple caraïbe qui habitait les Antilles avant l'arrivée des Européens. Donc vous écrivez des romans qui sont à la fois historiques mais en même temps qui ne le sont pas vraiment, qui sont peut-être plutôt de l'ordre de la fable. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu, dans notre petit questionnaire auquel je reviens, nous intéresser à la dimension de la fable et du conte. Et d'ailleurs, dans La matière de l'absence, votre dernier livre au Seuil, vous parlez beaucoup des conteurs créoles. Alors, vous ne les avez pas cités comme inspiration, et pourtant, on a le sentiment qu'ils structurent complètement votre écriture.
Oui, je pense que l'oralité nous est revenue. Hein. Bon, dans le caractère composite de les cultures caribéennes et des cultures créoles, on avait bien sûr l'écriture, la littérature écrite qui nous était donnée, mais moi, en tant qu'écrivain naissant, il fallait bien, en regardant derrière moi, trouver où étaient les pères fondateurs, et je ne trouvais pas de bibliothèque. Je trouvais des contes, des proverbes, des chants, des comptines, etc. Donc, l'oraliture, ce que les Haïtiens appellent l'oraliture.
Rien dans la boîte de pommes de terre.
Rien dans la boîte de pommes de terre. Tout était dans la parole, dans la mémoire, etc. Et à partir de là, il a fallu faire tout un travail de récupération. Et c'est vrai que les stratégies narratives qui se trouvent dans l'oralité sont puissantes. Le conteur créole ne fait pas de description, il ne fait pas de psychologie de personnage, il ne va pas avoir des temporalités linéaires, etc. C'est vraiment une stratégie narrative qui correspond bien au monde contemporain, qui correspondait à l'univers fracassé, chaotique de la plantation, mais qui correspond à l'espace-temps chaotique du monde contemporain. Et ça, j'ai ramené ça, enfin j'ai essayé de le ramener dans mon écriture.
Parce que par exemple, un conteur, quand il parle d'une villa très luxueuse, il dit « elle avait 32 000 cabinets
». Ouais. Si une maison a 32 000 cabinets, tout le reste doit être absolument incroyable. Donc c'est une langue où la tonalité est importante, la répétition est importante, la structure spiralique est importante, mais on retrouve ça chez Garcia Marquez, on retrouve ça chez Rabelais, on retrouve ça chez Faulkner. C'est vraiment des réalités narratives. Vous savez, quand j'étais à l'école, la moindre répétition, si dans la rédaction vous aviez deux fois le même mot, c'était barré, etc.
Bah, si vous mettiez 32 000 cabinets, évidemment, vous n'aviez pas une bonne
note. Alors
date.
Que le conteur créole peut faire des listings et répéter, et revenir, et à chaque fois amener une petite nuance. C'est des procédures narratives qui sont très, très intéressantes et dont on doit s'inspirer. Toutes les oralités, aujourd'hui, sont aussi précieuses que toutes les stratégies d'écriture littéraire.
Alors, vous citez Garcia Marquez, justement, on y arrive. C'est peut-être un conteur aussi, d'une certaine manière. Garcia Marquez.
C'est un conteur et c'est un maître du langage, ouais.
On va d'abord écouter un extrait de texte que vous avez choisi de nous faire entendre, c'est-à-dire L'automne du patriarche.
La deuxième fois, qu'on le découvrit rongé par les charognards, dans le même bureau, avec le même uniforme et dans la même position. Aucun d'entre nous n'était assez vieux pour se rappeler ce qui était arrivé la première fois. Mais nous savions qu'aucune preuve de sa mort n'était évidente, étant donné qu'une vérité cache toujours une autre vérité. Les moins prudents eux-mêmes ne se fiaient pas aux apparences. On l'avait si souvent affirmé. L'épilepsie le ravageait, et il s'écroulait sur son trône en pleine audience, se tordant sous les convulsions et vomissant une écume de fiel. Et il avait perdu la voix à force de discourir, des ventriloques se dissimulant derrière les rideaux pour faire croire qu'il parlait. Et des écailles d'alose lui poussaient sur le corps pour le punir de sa perversité. Et dans la fraîcheur de décembre, sa hernie lui chantait musique et il ne pouvait se déplacer qu'à l'aide d'une chaise orthopédique dans laquelle il trimbalait sa roupette herniée. Et un fourgon militaire avait livré à minuit par la porte de service un cercueil avec des incrustations d'or et des torsades pourpres. Et quelqu'un avait vu Laetitia Nazareno fondre en larmes dans le jardin de la pluie. Pourtant, quand les rumeurs de sa mort semblaient les plus sûres, on le voyait paraître plus vivant et plus autoritaire que jamais, au moment le plus imprévu, pour imposer d'autres caps imprévisibles à notre destin.
Un extrait de L'automne du patriarche de Gabriel Garcia Marquez, lu par Renaud Bertin dans la compagnie des auteurs. Extrait que vous avez choisi, Patrick Chamoiseau. On imagine que c'est la langue très exubérante de Garcia Marquez, précisément dans ce livre-là, beaucoup plus que dans les autres, qui vous retient. Que vous a-t-il appris ?
Le langage. Là, c'est vraiment, je ne l'ai pas lu dans la langue originale, malheureusement, je l'ai lu en traduction, mais vraiment, là, on a vraiment un langage, une matière langagière d'une modernité, d'une inventivité, d'une liberté qui est absolument impressionnante. Et puis, on a une capacité visionnaire extrêmement puissante. Avec L'automne du patriarche, il a réglé tout le problème des dictatures. Il y a aussi Moi le suprême d'Augusto Roa Bastos. Mais après, tous les livres qui vont paraître pour décrire ce qu'est un dictateur, ce qu'est le pouvoir absolu, etc. Ça y est, c'est L'automne du patriarche a réglé la question de manière absolument déterminée.
Et en plus, ce
l'essence du pouvoir absolu en termes de dérive, de décomposition morale, d'effondrement de l'humain, de déperdition imaginative, c'est fabuleux. Donc,
Et ce patriarche, il est raconté comme pourrait peut-être le faire un conteur, parce que il meurt, puis il revit. Ce n'est au fond qu'un espèce de long, très long portrait dans lequel on se perd. Quelque chose.
Et regardez le président algérien aujourd'hui, il meurt, il revit, on ne sait pas s'il est vivant.
Donc en fait, c'est
mort.
Très réaliste alors.
Non, ça y est, c'est réglé. On sait maintenant, si vous voulez comprendre toutes les dictatures, les archaïsmes qui subsistent encore dans le monde, bien que les démocraties autoritaires reviennent, donc presque sous les mêmes modalités. Mais ça, L'automne du patriarche nous donne toutes les clés de ce qui fait le fondement, d'une démesure du pouvoir politique. Et là, il est très puissant. Donc on a à la fois un maître du langage, donc une matière langagière qui raconte par elle-même, et on a aussi une puissance de vision qui nous donne une des clés de ce que peut être une autorité absolue.
On dit de Garcia Marquez qu'il fait partie de ce courant, qu'il est même peut-être le fondateur du courant du réalisme magique. On a commencé cette émission en parlant du réalisme de Zola. Est-ce que vous-même, vous pourriez, d'une certaine façon, vous mettre sous cette bannière-là du réalisme magique, même si c'est un peu anachronique et c'est pas tout à fait le même endroit
non plus, c'est pas du
géographiquement
tout.
Mais il y a quelque chose qui peut vous parler.
C'est pas du tout
quand
anachronique, si... Dans les projets politiques actuellement en France, il n'y a pas de réalisme magique, il n'y a que du réalisme économique, alors qu'il nous manque un peu d'utopie, il nous manque du tressaillement humain, il nous manque de l'audace. Et ça, c'est dommage. Quand l'univers public ou quand l'imaginaire se devient un peu sec, et qu'ils sombrent dans le réalisme, et qui, bon, là, on entre dans des dangers. Et l'autre élément, c'est que le réel est un inconnaissable. À partir de là, si le réel est un inconnaissable, il n'y a pas de limite. Essayer de le décrire de manière démesurée, c'est la seule approche possible. Et la mesure demande du merveilleux. Mais le réalisme merveilleux avant Garcia Marquez était déjà pratiqué par les conteurs créoles et aussi par la plupart des écrivains haïtiens.
Et Borges, que vous citez dans La matière de l'absence, oui. Vous ne l'avez pas cité dans cool, notre ouais. questionnaire, mais il est cool aussi.
Oui, il est cool. Non, Borges, c'est l'écrivain créole par excellence. Une culture fantastique, une articulation sur presque tout. Son arbre relationnel littéraire est impressionnant. Il est de toutes les langues et de tous les pays et de tous les imaginaires. C'est ça qui est l'esthétique contemporaine.
Et puis, on vous a posé une dernière question. Et cette question, c'était, pouvez-vous nous trouver un texte, évidemment vous le pouvez, qui est un conte, et vous avez choisi Alice au Pays des Merveilles.
Il y avait des portes tout autour de la salle, mais ces portes étaient fermées à clé. Et lorsque Alice l'eut parcouru dans les deux sens et eut en vain tenté de les ouvrir l'une après l'autre, elle revint tristement vers le milieu de la salle en se demandant comment elle pourrait ressortir. Soudain, elle se trouva devant une petite table à trois pieds, toute de verre massif. Il n'y avait rien dessus, si ce n'est une minuscule clé d'or. Et la première pensée d'Alice fut que cette clé devait ouvrir l'une des portes de la salle. Mais hélas, les serrures étaient-elles trop grandes ou la clé trop petite ? Toujours est-il que cette clé n'ouvrait aucune des portes. À la fin, pourtant, Alice découvrit une portière qu'elle n'avait pas encore remarquée. Et derrière cette portière, il y avait une petite porte, haute de 40 cm environ. Elle présenta la petite clé d'or devant le trou de la serrure et fut ravie de constater qu'elle y pénétrait aisément. Alice ouvrit donc la porte et vit qu'elle donnait sur un étroit corridor à peine plus large qu'un trou à rat. S'étant mise à genoux, elle aperçut au bout de ce corridor le jardin le plus adorable que l'on pût rêver. Comme elle eût voulu sortir de cette sombre salle et se promener parmi ces parterres de fleurs aux couleurs éclatantes et ces fraîches fontaines. Mais elle ne pouvait même pas passer la tête par le chambranle.
Et quand bien même ma tête y passerait, cela ne me servirait pas à grand-chose puisque mes épaules ne la suivraient pas. Oh, que je voudrais pouvoir rentrer en moi-même comme un télescope.
Alice au Pays des Merveilles, lui ici, par Pierre Vernier et Marie-Isabelle Heck. Patrick Chamoiseau, c'est un conte, mais est-ce un conte créole celui-ci ?
Ah, bien sûr. Moi, je pense que lorsqu'on est à cette fréquentation du merveilleux, c'est quelque chose que je vais retrouver par la suite chez les conteurs créoles. Et après, ça va se répercuter. On retrouve ça chez les Haïtiens, chez Garcia Marquez, etc. Le merveilleux fait partie du réel. Envisager le réel sans merveilleux, envisager le réel sans utopie, c'est entrer dans une pauvreté de l'esprit. Et ça, Alice au Pays des Merveilles m'a tout de suite inauguré le virus du merveilleux, en tout cas la connaissance qui est portée par le fait qu'on va au-delà du réel et qu'on injecte dans le réel des démesures, des dépassements, des déraillements, des fractures et des percées. Et ça, c'est absolument important. Et c'est déterminant pour moi parce que ça va être le premier livre que je vais trouver dans la boîte de pommes de terre. Et celui que j'ouvre, c'est Alice au Pays des Merveilles. Je ne commence pas à le lire, je regarde d'abord les illustrations. Mais après, lorsque je vais le lire, ça va être le merveilleux qui va faire partie terriblement de mon écriture. Toute mon écriture sera structurée par Germinal et Lewis Carroll, c'est-à-dire le peuple, la souffrance, l'exploitation, la domination, la résistance... Et le réel, l'inconnaissable, l'impensable, l'incertain, l'imprévisible et les déraillements qu'il faut imposer aux réalités. Et avec ça, bon, je suis devenu ce que je suis.
Et ce que vous êtes, c'est un écrivain qui vient ici au Salon du Livre de Bron, à la Fête du Livre de Bron, avec beaucoup d'autres écrivains. Vos contemporains, vous les lisez aussi, les autres écrivains qui sont là, vous les lisez?
Je veux dire que je suis à un âge où on relit.
Il y a des romans qui sortent encore, hein, vous savez, chaque
oui,
année.
Oui, je jette un œil, mais bon, beaucoup de romans me tombent des mains, oui.
Et pourtant, vous avez cité le nom de Milena Agus.
Ah oui, j'ai réussi à lire. Ça s'appelle Mal de Pierre. Mmh. C'est formidable. C'est une écrivaine sarde. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Là, on a un véritable écrivain. Il y en a aussi, il y en a d'autres. Hein, mais bon, c'est vrai que là, moi, ce que je crois, c'est que l'écrivain, à un moment donné, se développe une esthétique. Et cette esthétique, qui pour moi est une esthétique que j'appelle l'esthétique de la confrontation à l'impensable, le langage, les perspectives, les structurations du texte sont données par la confrontation à l'impensable. Et ce qui fait que le récit tombe, que la fiction du 19e siècle qui règne aujourd'hui dans les productions littéraires, tout ça, ça n'a pas de sens. Mmh. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la puissance langagière et le phénomène visionnaire que représente le courage d'un artiste face à l'impensable.
Merci beaucoup Patrick Chamoiseau d'avoir bien voulu vous prêter ici en public à la fête du livre de Bron à cet exercice de la carte blanche que nous faisons ici, comme ailleurs, comme à Paris parfois, de temps à autre, dans la compagnie des auteurs. Je rappelle que votre dernier livre s'appelle « La matière de l'absence » et qu'il est disponible aux éditions du Seuil. Merci à la fête du livre de Bron, Yann Nicole, Laetitia Vorep, Brigitte Giraud, Dominique Bonvalet. Merci également à l'espace Pandora. Tout de suite, sur France Culture, on trouve la poésie avec Jacques Bonafé.
Il est dur de dire le simple, l'émotion ténue, la crainte que demain nous ne détruisions l'entier de la terre et pour la première fois peut-être l'angoisse de la mort de l'espèce plus grande que celle de sa propre mort. Mais c'est aussi l'inclinaison abstraite des mains occupées, la transparence du verre sous l'eau bouillante, le midi mesuré de toute chose à un lever de matin. L'extension du regard hors de la pupille et la tête montgolfière qui le suit, aux nuées, à l'impensable, au tourbillon des planètes et au clinamen des atomes, au fractal et au ping-pong des neutrinos, l'éveil, l'espace d'une assiette qui goûte sur l'évier, le satori en lavant la vaisselle. Le satori n'est pas un produit pour la vaisselle, le satori c'est le goût de la contemplation, hein, l'instant spirituel. Bonjour, nous sommes toujours avec Claude Bert. Toujours, la langue veut dire l'air, l'eau, la terre, les écluses du corps, les séjours de l'esprit, l'immensité captée dans un miroir de poche, le loin de la fenêtre vu, ciel découpé au carreau et sa hauteur à portée de main, lumière traversière que je traverse comme un chuchotement, tant et naine ma taille à proportion, instant précieux. Fugacement, sur la soie tiède d'un ray de lumière, le temps voluptueux. Derrière la herse de rayons, une perfection accessible, clarté de l'air tombée des toits pentus. Dans une communauté tactile de matière, le jour, la peau, les pigments et les pores, respiration. Avant voir, avant sentir, avant être, dans vivre, lavé de tout. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure. Non mais qu'est-ce que Louise Labbé fait là, dans un montage de... Elle s'est invitée, sans doute, à son tour elle crie la célébration de l'espèce. Écoutons Louise Labbé. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est et trop molle et trop dure, j'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à coup je ris et je larmoie, et en plaisir main grief tourment endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure, tout en un coup je sèche et je verdois. Ainsi amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine et être au haut de mon désir heure, il me remet en mon premier malheur. Ah, que la vie est dure, Louise Labbé, mais que c'est bon d'être amoureuse. Réponse de Claude Bert, au ventru des tulipes s'ouvrant sur les pistils, l'élan vivace et sa poussée intense dans le matin, à l'horreur sa gorge mutique dans l'ici douloureux et dérisoire de sa répétition, son grelottement de tôle tremblée versant soudain dans la théière une lampée de vie ébouillantée. Qu'est-ce qui reste, demande-t-elle, une fois rabattu le caquet de la parole sur son impuissance ?